Border Life.
Psychoéducation. Pourquoi ton cerveau va trop vite ? Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de comprendre pourquoi parfois, alors même que quand tu essayes très très fort, tes automatismes reviennent au galop. La réponse que tu reçois, c'est souvent « Oh, ça va, c'est juste une question de volonté, t'as qu'à faire un effort. Non mais c'est bon, c'est pas compliqué. » Et là, ta culpabilité, elle monte en flèche. Tu t'étais pourtant dit cette fois que tu le ferais pas, que tu renverrais pas un message, que tu irais pas vérifier, que tu claquerais pas la porte. Mais la situation arrive et l'émotion monte, et quelques minutes plus tard, bam, c'est fait. Le plus frustrant, c'est qu'après coup, tu savais très bien ce que tu aurais préféré faire. Alors forcément, il y a une question qui arrive. Mais pourquoi je fais ça alors que je sais très bien que ça m'aide pas ? Et c'est une excellente question, parce qu'elle pointe une distinction essentielle. Savoir quoi faire et réussir à accéder à cette réponse au moment où tu en as besoin, eh ben c'est pas exactement la même chose. Ton cerveau adore les raccourcis. Ton cerveau, le mien, et ceux de n'importe qui d'ailleurs. Notre cerveau automatise énormément de choses. Et heureusement. Imagine si chaque matin, tu devais réfléchir consciemment à tous les gestes nécessaires pour te brosser les dents. Prendre la brosse, la positionner, choisir le bon mouvement, évaluer la pression, hop, passer à la dent suivante. Ce serait épuisant. Avec la répétition, notre cerveau, il apprend des séquences. Et certaines réponses deviennent progressivement plus rapides, plus accessibles, moins coûteuses en attention. Et c'est l'une des grandes forces de l'apprentissage. Mais notre cerveau, il n'automatise pas uniquement les comportements qui nous font du bien. Il automatise aussi ceux que nous répétons. Et surtout, il apprend très bien les comportements qui ont produit une conséquence importante juste après leur réalisation. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Parce que ton cerveau, en fait, il est très sensible à ce qui fonctionne tout de suite. Imagine, tu as peur que quelqu'un s'éloigne, l'incertitude est très désagréable, tu vérifies son statut en ligne et, quelques secondes plus tard, l'anxiété baisse. Ou alors, tu es submergé par une colère énorme. Tu cries, tu raccroches, tu bloques la personne et pendant quelques instants, la tension redescend. Ces comportements peuvent avoir des conséquences compliquées ensuite. Mais ton cerveau reçoit aussi une autre information, beaucoup plus immédiate. J'ai fait ça, et quelque chose de désagréable a diminué. Et ça, c'est particulièrement puissant. On parle notamment de renforcement négatif lorsqu'un comportement devient plus probable parce qu'il permet de faire diminuer ou disparaître quelque chose de désagréable. Le mot négatif est trompeur, il signifie pas mauvais. Hein. Il signifie qu'on retire quelque chose en moins. Et ici, ce qu'on retire, bah, c'est la tension, la peur, la colère. Et le cerveau, bah, il apprend. Et donc, ce qui soulage peut devenir très attirant. C'est ce qui permet de comprendre un paradoxe fréquent. Un comportement peut être très mauvais pour toi à long terme et parfaitement logique du point de vue de l'apprentissage à court terme. Prenons le fait de vérifier constamment si quelqu'un est connecté. À long terme, ça peut augmenter la préoccupation, alimenter l'hypervigilance relationnelle et te maintenir focalisé sur cette personne. Mais à très court terme, bah, tu obtiens une information. Et parfois, pendant quelques secondes, eh ben, l'incertitude diminue. Donc, le cerveau peut apprendre. Incertitude amène au comportement de vérifier qui amène du soulagement. Et en plus, cette séquence, elle se répète. Plus vérifier peut devenir une réponse facilement disponible, lorsque l'incertitude réapparaît. Ce n'est pas une décision longuement réfléchie, hein. C'est une route que ton cerveau connaît déjà. Imagine un chemin dans une forêt. La première fois, il faut pousser les branches, chercher où passer, éviter les ronces. Mais si tu empruntes exactement le même trajet, encore et encore, le passage devient beaucoup plus évident. Un sentier apparaît. Et lorsqu'il faut traverser rapidement la forêt, bah, t'as beaucoup plus de chances de prendre le chemin qui est déjà tracé plutôt que de te dire « Tiens, aujourd'hui, j'irais bien créer une nouvelle route, en plus je suis en short et j'ai pas de machette. » Nos habitudes comportementales ne sont évidemment pas littéralement des chemins dans le cerveau, hein, mais l'image permet de comprendre. Une réponse répétée devient plus accessible. Et lorsque l'émotion est très forte, cette accessibilité compte énormément. Parce que dans ces moments-là, nous ne choisissons pas forcément parmi 20 stratégies différentes, comme si on consultait tranquillement un catalogue. Certaines réponses arrivent beaucoup plus vite que d'autres. Et c'est là qu'apparaît le fameux « Oui, je sais, mais… » Je sais que je devrais attendre avant de répondre. Je sais que vérifier ne va pas vraiment me rassurer. Je sais que si je l'insulte, je vais regretter. Je sais ce que va dire ma psy. Oui, bah, tout cela peut être parfaitement vrai. Le problème n'est donc pas forcément un manque de connaissances. Tu peux connaître une compétence intellectuellement sans qu'elle soit encore suffisamment disponible sous forte activation émotionnelle. Et ça change complètement la façon de comprendre l'apprentissage en thérapie. Parce que connaître une compétence, bah, c'est que le début. Une compétence doit aussi entrer en compétition avec ce que ton cerveau connaît déjà. Supposons que depuis plusieurs années, quand tu ressens une peur intense d'être abandonné, ton cerveau connaît une stratégie très efficace à court terme. Relancer, rappeler, ressolliciter. Puis tu apprends une nouvelle réponse en TCD. Observer, attendre, utiliser la compétence stop, tolérer momentanément l'incertitude, vérifier les faits. T'as tout compris, hein ? T'es même complètement d'accord avec le principe, il va pouvoir t'aider. Mais lors de la prochaine montée émotionnelle, il y a un petit problème. D'un côté, une réponse pratiquée peut-être des centaines de fois et associée à un soulagement immédiat, et de l'autre, une compétence apprise mardi dernier à 15h dans un bureau. Bah, en réalité, le match, il n'est pas vraiment équilibré. N'est donc pas surprenant si l'ancienne réponse gagne parfois. Et c'est précisément pour cela que la TCD insiste autant sur l'entraînement. Ça peut te paraître répétitif, je veux bien le croire. Refaire une compétence alors qu'on l'a déjà comprise, la pratiquer alors qu'on n'est même pas en crise, l'écrire, l'utiliser sur des petites situations, recommencer encore et encore. Mais le but n'est pas simplement de mieux connaître la théorie. Le but est que la nouvelle réponse devienne de plus en plus disponible. Parce que le moment où tu as le plus besoin d'une compétence est souvent exactement celui où tu as le moins de ressources pour aller la chercher. Et ça, oui, c'est un peu injuste. Mais c'est une raison supplémentaire de l'avoir suffisamment entraîné avant. Il y a autre chose que ton cerveau adore, les conséquences rapides. Et là, les anciennes stratégies, elles ont un avantage énorme. Bloquer quelqu'un peut soulager immédiatement. Vérifier peut rassurer immédiatement. Éviter une situation anxiogène peut faire baisser l'anxiété immédiatement. Alors que les bénéfices d'une nouvelle stratégie sont parfois beaucoup moins spectaculaires. Tolérer l'incertitude, ouais, pas très agréable sur le moment. Ne pas envoyer le message, ok, mais l'anxiété, elle reste là. Ne pas éviter, mais l'inconfort augmente même parfois temporairement. Et pourtant, à long terme, les conséquences peuvent être très différentes. C'est une difficulté fondamentale de la régulation émotionnelle. Ce qui fonctionne le mieux dans les 5 prochaines minutes n'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux pour les 5 prochains mois. Notre cerveau, lui, reçoit très facilement les conséquences immédiates et les conséquences lointaines demandent davantage d'apprentissage. C'est pour cela qu'un comportement ne devient pas incompréhensible simplement parce qu'il est destructeur. C'est une idée importante. Quand un comportement pose problème, la question n'est pas seulement « Pourquoi est-ce que je fais quelque chose d'aussi mauvais pour moi ?» Une question beaucoup plus utile peut être « Qu'est-ce que ce comportement fait pour moi au moment où je l'utilise ? Est-ce qu'il réduit une émotion ? Est-ce qu'il met fin à une incertitude ? Est-ce qu'il me permet d'obtenir une réaction ? Est-ce qu'il donne une impression de contrôle ? Permet d'éviter quelque chose ?» Parce qu'un comportement qui persiste a souvent une fonction. Pas forcément une fonction consciente, hein, et pas forcément une fonction souhaitable. Et certainement pas une fonction efficace à long terme. Mais quelque part dans ton histoire, et dans la sienne, il a probablement servi à quelque chose. Et c'est précisément pour cela qu'en TCD, on analyse les comportements plutôt que de simplement les condamner. Et c'est là que l'analyse en chaîne prend tout son sens. L'analyse en chaîne, elle cherche pas seulement à répondre à « qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle cherche à comprendre à comment on est passé d'un point A à un point B. Le contexte, les fragilisateurs, le déclencheur, les pensées, les sensations, les émotions, les envies d'agir, les comportements et surtout, les conséquences. Parce que si un comportement problématique procure systématiquement quelque chose d'important juste après, du soulagement, une réponse, une interruption de la douleur, bah, cette conséquence, en fait, elle fait partie du problème. Et elle fait aussi partie de la solution. Pour construire une autre réponse, il faut comprendre ce que l'ancienne permettait d'obtenir. Sinon, on demande simplement au cerveau d'abandonner une stratégie qui a une fonction, sans lui proposer de quoi remplir cette fonction autrement. Alors non, le but n'est pas de devenir lent, hein. Tu n'as pas besoin d'analyser chaque message pendant 20 minutes, ni de transformer chaque décision en analyse en chaîne. La plupart de nos automatismes sont extrêmement utiles. L'objectif est plutôt d'identifier les moments où ton cerveau emprunte tellement vite un chemin connu que tu n'as plus l'impression vraiment d'avoir choisi. Et là, à introduire quelques secondes, une compétence ou une réponse différente peut commencer à créer un autre chemin. Au début, oui, il sera probablement moins naturel, moins rapide et franchement, même parfois pénible. Puis à force d'être utilisé, il pourra devenir plus accessible. Et c'est aussi ça, apprendre à réguler ses émotions. Pas supprimer les anciennes routes de son cerveau, mais en construire suffisamment d'autres pour ne plus être obligé de prendre toujours la même. Et peut-être que c'est ça la chose importante à retenir. Lorsque tu te dis « Pourtant, je savais bien qu'il ne fallait pas faire ça », le problème, c'est pas nécessairement que t'as rien appris, hein. Il est possible que ton cerveau ait simplement utilisé la réponse qu'il connaissait le mieux, celle qui était la plus accessible ou celle dont il avait appris qu'elle pouvait soulager rapidement quelque chose. Le changement ne consiste pas alors à savoir mieux. Il consiste à apprendre autrement, à répéter autrement et progressivement rendre d'autres réponses possibles au moment où elles comptent vraiment. Parce qu'au fond, construire une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue ne consiste pas à ne plus avoir d'automatisme. Non. C'est faire en sorte que petit à petit, nos automatismes et nos choix nous emmènent un peu plus souvent dans la direction de la vie que nous voulons réellement construire et vivre. Merci pour ton écoute. Et bravo à toi. À bientôt.